on traduit par âme. Et c'est un point de vue. Et on a tiré de la psyché toute une psychologie qui précisément consiste à dire la lune telle qu'elle est différente pour chacun de ceux qui la regardent, et non la lune telle qu'elle apparaît au milieu du ciel. Mais Aristote disait, parlant de la psyché, « E psyché, ta onta, possesti panta », ce qui peut se traduire par « la psyché est à sa façon tous les étant autant qu'ils sont ». Ce qui ne veut pas dire que quand je vois une chèvre, je deviens moi-même chèvre, ce qui ne veut pas dire que quand je vois une bouteille, je deviens moi-même bouteille, ce qui veut dire simplement que ce soit chèvre ou que ce soit bouteille, l'une et l'autre me sont immédiatement présentes sans que rien n'en sépare, à la manière d'une cloison ou d'un écran.
Dasein veut donc suggérer une dimension plus fondamentale que le moi, que la conscience.
C'est très exactement pour dire que la conscience n'est pas une dimension fondamentale, mais une dimension dérivée et pour ainsi dire endettée à l'égard de siècles de philosophie, que Heidegger revient de la conscience à l'immédiateté du Dasein. Dasein est donc un terme intraduisible. Eh bien, la question telle qu'elle est développée d'un bout à l'autre de Sein und Zeit, eh bien, l'apparition de l'être dans l'horizon du temps, mais pour le Dasein, et pas encore pour l'être lui-même. Voilà en quoi un Heidegger II commence à percer sous un Heidegger I, des Sein und Zeit. Qu'est-ce qui caractérise le temps ou la temporalité, comme on dit parfois, entendant par temporalité ce qui fait que le temps est lui-même temps. Qu'est-ce qui constitue la temporalité propre au Dasein? D'une façon générale, quand on pense à temporalité, on pense succession temporelle, c'est-à-dire que quelque chose est arrivé avant autre chose, et qu'une troisième chose arrivera après la seconde. Le propre du livre de Heidegger est de penser que cette interprétation du temps n'est pas son interprétation phénoménologique, que le phénomène du temps, ou comme disait Goethe, lourd phénomène, le phénomène originel du temps, n'est pas la succession des moments, mais, dit Heidegger en allemand, die gleiche Ursprünglichkeit der Ekstasen, que l'on pourrait traduire par la contemporanéité des Ekstases. Entendons la contemporanéité d'un passé, d'un présent et d'un avenir n'appartient autant que celui qui, dans le présent, se sait à partir d'un passé et s'ouvre à son avenir de telle sorte que les trois dimensions du présent, du passé et de l'avenir sont exactement contemporaines et définissent ce que Kierkegaard appelait l'instant et qui est le point essentiel du temps. Mais l'instant n'est pas le moment qui passe, l'instant est le fait que tout ce qui apparaît appartient à un même monde. Par exemple, si vous voulez, Descartes fondant un présent, le fonde à partir d'un géomètre grec qui s'appelait Apollonius et en qui il voit, pour ainsi dire, l'ancêtre de son interprétation mathématique de la nature, et dans le discours de la méthode, il s'adresse à ceux qu'il nomme mes neveux, qu'il considère comme des contemporains, encore à venir, par conséquent, contemporanéité du présent, du passé et de l'avenir. Nietzsche en avait compris quelque chose quand il distinguait dans l'histoire ce qu'il appelait l'histoire monumentale, l'histoire antiquaire et l'histoire critique. L'histoire monumentale, c'est celle qui autorise un avenir. L'histoire antiquaire, c'est celle qui contrôle cet accès à l'avenir par une référence au passé Et l'histoire critique, c'est celle qui fait jaillir le présent, au sens où Mallarmé dit le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire le maintenant qui passe, mais ici et maintenant, où nous sommes tous appartenant à un même monde.